Vous allez entendre un reportage territoire sur Radio Eulenspiegel 91.8.
Guillaume de Clercq, bonjour.
Bonjour Bruno.
Je serais tenté de dire bonjour Monseigneur, puisque la tournée à Châtellenie, De Cassel et Comte de Flandre va recommencer le 13 juin prochain. Tu mets en scène la vie de Cassel, une certaine époque de notre histoire, le Moyen-Âge.
Oui. Tout à fait. Alors, ces prestations que je mets en place depuis septembre 2020, donc ça va faire presque 6 ans, mettent en avant vraiment le passé médiéval de Cassel avec un personnage fictif du XIe siècle qui emmène les visiteurs sur les traces de Robert le Frison, dont le passé est encore très très présent et puis l'histoire est très présente ici à Cassel, en évoquant avant toute chose, la bataille du 22 février 1071, la première bataille de Cassel.
Un personnage fictif, c'est toi. Et pour arriver à ce genre de qualité de spectacle, tu as dû faire des recherches.
Oui. Alors, le travail du guide historique, en fait, c'est aux trois quarts du temps des recherches, que ce soit aux archives, que ce soit dans des centres spécialisés ou des documents. C'est ce qui prend le plus de temps. Donc j'insiste vraiment sur le fait que le travail qui est fait pour cette prestation, aux trois quarts, c'est de la recherche historique, et le dernier quart, vraiment, c'est le plaisir de faire la prestation devant le public.
Nous pouvons parler de visite théâtralisée.
Oui, oui, on peut employer ce thème-là totalement. Hein. C'est parce que c'est une visite qui sort un peu des clous habituels de la visite dite classique où on emmène les gens à un point A ou à un point B. Non, moi, la visite que j'ai créée, c'est vraiment quelque chose d'immersif où le public peut s'immerger vraiment au XIe siècle en ayant une vue sur le champ de bataille. Voilà, même si on ne sait pas le lieu exact au jour d'aujourd'hui. Mais moi, c'est cette approche immersive qui me plaît réellement dans cette prestation.
On sait que c'est prochainement, et ça va très vite puisque c'est dans 2 ans, les 700 ans de cette bataille de Cassel. On connaît l'origine, on sait pourquoi elle a eu lieu.
Alors, la bataille de 1328, c'est un contexte qui est quand même assez particulier. On est dans un contexte où la Flandre est en... Comment je vais dire ça ? Une espèce de...
De recherche, peut-être ?
Non, pas vraiment une recherche. En fait, on a un comte de Flandre qui s'appelle Louis de Nevers à cette époque-là, qui n'a rien vraiment de flamand parce qu'il a été élevé à la cour des rois de France, il ne parle pas le flamand, il méprise le peuple flamand, il est pratiquement jamais en Flandre et il impose des taxes toujours plus dures les unes que les autres. Et il y en a une qui va un peu mettre le feu aux poudres, un petit peu, c'est une taxe sur une boisson auquel il ne faut pas toucher en Flandre, c'est la bière. Alors, c'est pas...
Oh le vilain.
Voilà, exactement. Il va la prendre à ses dépens parce qu'on va avoir une révolte qui va commencer à se lever en 1326, donc 2 ans avant la bataille, ce qu'on va appeler la révolte des Carles, et qui va être l'œuvre d'un homme, Nicolas Zanuckin. Donc Nicolas Zanuckin, pour expliquer un petit peu brièvement, c'est pas un seigneur à proprement parler, c'est, comment parler vulgairement, on pourrait dire aujourd'hui, c'est un promoteur immobilier. Voilà, c'est quelqu'un qui a des terres, mais qui n'est pas un grand seigneur, mais qui va réunir autour de lui plusieurs villes et cités flamandes, Berg, Furnes, Bourbourg, alliés à sa cause, pour se montrer leur mécontentement auprès du comte de Flandre. Et ce dernier, le comte de Flandre, il va faire appel au roi de France, Philippe de Valois, pour venir le soutenir. Et Philippe de Valois, il va venir avec tout l'ost royal, toute l'armée royale, ici même à Cassel. Alors, c'est plus au contrebas de Cassel, sur la commune actuelle d'Ardifort, où là, c'est presque 20 000 hommes qui vont arriver à la fin du mois d'août 1328.
Ce célèbre Nicolas Zanuckin qui est né à Lampernis, où on peut trouver encore sa tombe aujourd'hui, donc il était bien présent en Flandre du Sud.
Oui, totalement. Oui. Nicolas Zanuckin, qui est né donc à Lampernis, donc à une quarantaine de minutes d'ici de Cassel. C'est un personnage qui est très très important en Flandre. Encore aujourd'hui, Nicolas Zanuckin, il fait partie de ces personnages, au même titre que peuvent faire partie Robert le Frison, Jeanne de Flandre. C'est des personnages qui ont laissé une trace vraiment très très importante.
Mythique et mystique à la fois.
Oui, on peut dire ça parce qu'on a raconté un petit peu tout et son contraire sur Nicolas Zanioukine. Bon, on sait que malheureusement il est mort sur le champ de bataille de Hardifort, mais Zanioukine, pour moi, fait partie de ces personnages qui sont indissociables de l'histoire de la Flandre.
1214, 24 juillet, la bataille de Bouvines. 1302, 11 juillet, la bataille de Courtrai, la fameuse Roldensporen, la bataille des Épondeurs. Et 1328, donc la bataille de Cassel. Il y a une corrélation entre ces trois dates?
Oui, il y a une espèce de corrélation, parce qu'à chaque fois, c'est le... Comment expliquer ça? Les Flamands, en fait... Lors de ces trois batailles-là...
Les Flamands, je crois, ils sont riches et ça embête un peu les royautés présentes, aussi bien françaises, entre autres.
Ah oui, bien sûr. Je prends le cas, par exemple, de la bataille de Courtrai en 1302. Il faut savoir que le comté de Flandre, au début du XIVe siècle, c'est un des comtés les plus puissants en Europe. Et le roi de France de l'époque, Philippe le Bel, bah, il ne peut pas accepter qu'au nord de son royaume, bah, commence à avoir un comté, un petit état vassal, qui lui fasse de l'ombre. Donc, on est dans une espèce de guerre pour montrer un petit peu qui est le plus fort. Et à ce jeu-là, Philippe le Bel va quand même bien se casser les dents à Courtrai, parce qu'en prenant de haut ce qu'il avait appelé la piétaille flamande, bah, il va comprendre que la piétaille flamande, elle va mettre en pièces sa grande cavalerie devant les portes de Courtrai. Et il va quand même perdre beaucoup de ses grands seigneurs et barons, par exemple Robert d'Artois, qui était un de ces grands seigneurs qui va mourir devant les portes de Courtrai.
D'une certaine façon, ils leur ont dit héros d'Ondar, bonjour, mais c'était aussi une arme qui faisait et qui tuait les chevaux.
Oui, exactement. Le coup d'Ondar, c'était vraiment l'arme indissociable de la bataille des Éperons d'Or. Cette arme, voilà, comme tu le dis si bien, ce qui signifie donc bonjour en flamand ou en néerlandais. Eh bien, elle portait bien son nom parce que les communiers flamands attendaient les cavaliers pour pouvoir désarçonner ces derniers, ou des fois les piquer au niveau de la carotide, ce qui faisait retomber la tête en avant, ce qui signifie bonjour.
Ouais. Il y avait les fameux marais et puis, paraît-il, du brouillard à cette époque, ce qui fait que les chevaux, qui étaient très lourds, eh bien, s'embourbaient. Le spectacle, parce que on va parler de spectacle quand même, c'est une heure. Dans le Moyen-Âge.
Oui, on repart pendant une heure, 11e siècle. On est vraiment en immersion totale dans cette Flandre médiévale, dans ce qu'était la Flandre au 11e siècle, avec le contexte historique, qui est à rappeler quand même, parce que le contexte historique de la Flandre au 11e siècle, il est extrêmement intéressant. Alors, sans rentrer dans le détail, on va comprendre que c'est ce qui a amené à la bataille de Cassel en 1071, c'est vraiment une histoire de famille, en fait. C'est vraiment une histoire de famille autour de Robert le Frison, de son neveu Arnoul et de la mère de ce dernier, donc Richilde de Hainaut, la comtesse de Hainaut. Et on verra vraiment que cette bataille-là, vraiment, c'est... Alors, pour parler plus vulgairement, moi, j'associe la bataille de 1071 à Game of Thrones. Parce que c'est vraiment une guerre de pouvoir, on voit vraiment que c'est du fratricide, du parricide, des histoires de trahison. Cassel 1071, si on s'y intéresse vraiment, on voit que c'est vraiment une histoire de famille, en fait.
Le public par lui-même, du touriste, du Casselois, des Néerlandais, des Anglais.
Ça peut être tout type de public. Ça peut être du local, ça peut être du touriste de passage, ça peut être du touriste étranger, ça peut être des Néerlandais, des Anglais, etc. C'est ouvert vraiment à tout le monde.
On sait que Cassel, et ce n'est pas prétentieux, c'est une réalité, est le plus beau village de Flandre, mais tu vas te rendre aussi à Hazebrouck pour mettre en avant ce Moyen-Âge qui est un peu absent dans l'idée de mémoire de Hazebrouck.
Oui, à Hazebrouck... Quand on évoque l'histoire d'Hazebrouck, ce qui nous vient premièrement à l'esprit, ça peut être l'abbé Lemire, ça peut être...
Qui est aussi un personnage.
Mais bien sûr, Jules Lemire, il est indissociable de l'histoire de Flandre, au même titre que les personnages dont j'ai évoqué tout à l'heure. Ça va être les dégâts subis par Hazebrouck lors de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Mais quid de la période médiévale? La période médiévale, il y a énormément de choses intéressantes qui ont eu lieu à Hazebrouck. On peut citer directement ou indirectement tous les gens, les hommes qui ont participé aux batailles que tu évoquais tout à l'heure, que ce soit Bouvines, Courtrai ou Cassel. Ça peut être aussi la première mention d'Hazebrouck en 1122 dans une charte éditée par Charles le Bon, le comte de Flandre. Ça peut être aussi les chartes, notamment une qui, au jour d'aujourd'hui, est l'ancêtre des intercommunalités comme l'interco Cœur de Flandre Agglo, le HOP, qui réunissait déjà à l'époque, à sa fondation en 1326, plusieurs communes du secteur, dont Cassel faisait partie, Cassel, Renescure, Morbecq. Alors, on avait aussi Merville et Bruxelles, mais peu de gens sont au courant du fait que Cœur de Flandre Agglo, en fait, c'est l'héritier direct de ce HOP. Donc, à Hazebrouck, on sait qu'il y a eu énormément de choses qui se sont déroulées au Moyen-Âge, mais c'est un petit peu passé sous silence parce que Hazebrouck n'avait pas l'importance de ses voisines comme pouvaient l'être Cassel ou Bailleul. Bailleul qui avait par exemple une activité drapière extrêmement conséquente au Moyen-Âge. Hazebrouck est un petit peu mis au rebut au Moyen-Âge parce que Hazebrouck, c'est petit, c'est un petit village et on en parle très peu.
Tu as été un activateur de mémoire ?
Oui, même si j'ai pas cette prétention-là totalement, mais je juge utile de pouvoir informer un petit peu les gens des événements qui ont pu avoir lieu, que ce soit à Cassel ou là à Hazebrouck, dans une période qui est extrêmement riche et qui est le Moyen-Âge. Moyen-Âge qui, alors un peu moins maintenant, mais qui a souffert malheureusement de certaines idées reçues, et qui aujourd'hui est remis au goût du jour par des historiens, par des scientifiques, par des passionnés d'histoire, pour vraiment remettre en avant cette période un peu méconnue et des fois un peu dévalorisée.
Avant de se quitter, trois dates à retenir, ainsi que deux lieux.
Oui, alors les trois dates à retenir, c'est d'abord pour les prestations, donc la châtellenie de Cassel et les comtes de Flandre. Donc c'est ce samedi 13 juin à 15h et ensuite les mercredis 15 juillet et 19 août à 15h. Donc ça c'est pour Cassel. Le rendez-vous se fait devant l'office de tourisme et les réservations se font en ligne sur le site de Cœur de Flandre ou dans les trois bureaux d'information touristique de Bailleul, Cassel et Hazebrouck. Et pour les prestations à Hazebrouck, donc Hazebrouck en Flandre médiévale, c'est le 29 août à 15h et le 5 septembre à 15h. Les modalités de réservation sont les mêmes que pour Cassel. Le lieu de rendez-vous, bien sûr, là, il se fait devant l'office de tourisme d'Hazebrouck, au niveau de l'hôtel de ville.
Merci beaucoup de ta visite. Guillaume, je serais tenté de dire Willem.
Dankuwel. Merci, Bruno. Thank you. Thank you.